Jacob Kosminski.
Qu'est-ce que vous lui voulez?
C'est mon frère. Où est-ce que je peux le trouver?
Il est à Colony Hatch. C'est une espèce d'hôpital, un asile de fous.
Nous avons retrouvé le corps de Mary Jane Kelly dans la chambre de votre frère. Elle était dans son lit.
Mon frère n'est pas un meurtrier.
Votre frère est un monstre.
Si vous voulez garder une bonne image de votre frère, faites demi-tour.
Il a passé 2 ans ici.
Vous aurez la chambre voisine.
L'éventreur en a après vous.
Regardez bien dans l'arc. Parce que j'y suis. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que l'éventreur me suit déjà en permanence et qu'il me retrouvera où que je sois.
Vous voulez servir d'appât?
Bon, début de soirée sur les ondes de choix 98 Radio X. Christian Page, les vendredis comme je les aime, on tombe dans mon dada de tueur en série ce soir. Oui.
Et oui, moi aussi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et ce soir, d'autant plus que le sujet, je ne parlerai pas de Jack l'Éventreur, quoique oui, un peu par oui. La bande. Mais c'est vrai que pour moi, Jack l'Éventreur est plus qu'un sujet d'intérêt. C'est vraiment, le tueur a été pour moi une obsession. Hein. Pendant des années, j'étais obsédé par ce tueur-là. Je suis allé à Londres à quelques reprises. Je me suis plongé le nez dans les archives. Je pense être le premier journaliste étranger à avoir eu un accès entier aux archives de Scotland Yard sur Jack l'Éventreur. Hein, il faut savoir qu'à l'époque, les crimes de l'Éventreur ont été commis en 1888. Et selon la loi britannique, les dossiers ne peuvent pas être rendus publics avant un siècle. C'est une loi. Ouais. Ça ne fait pas partie d'un secret là, particulier. Là. C'est la loi qui était comme ça. Donc, les dossiers ne devaient pas être rendus publics avant 1988. Mais il y avait quand même beaucoup de demandes de gens qui voulaient avoir de l'information sur l'éventreur. Et en dépit de cette loi-là, on avait quand même commencé à publier certains des dossiers. Moi, quelque part, là, je veux dire 1985-1986, je me retrouve à Londres. Les dossiers ne sont pas encore publics, mais éventuellement, je suis passé par le Home Office, le ministère de l'Intérieur, et éventuellement, on m'avait donné une autorisation. Je me suis rendu à Kew, qui est en banlieue de Londres. C'est un quartier en banlieue de Londres, et c'est là que sont gardées les archives nationales, dont notamment les anciennes archives de la police qui sont conservées là. Et c'est là donc que j'ai accès aux dossiers, et on m'a autorisé à avoir une copie de ces dossiers-là. Je suis donc revenu avec ce, je sais pas moi, ça devait peser 50 kilos de papier dans mes valises. Je suis revenu avec ça à la maison. Et puis, écoute, bon, c'est vrai que pour moi, le tueur était devenu un peu une obsession. Et c'est vrai que ça demeure pour moi la quintessence du tueur en série. Dans Jack l'Éventreur, c'est le premier tueur en série de l'ère moderne. Et il y a quelque chose dans ces crimes de presque romantique, hein. Puis là, je le mets entre guillemets.
Oui.
Mais c'est vrai que quand on se ferme les yeux, on imagine l'Éventreur, les crimes sont monstrueux. Mais il y a quelque chose de cinématographique dans les crimes de l'Éventreur. On se ferme les yeux, on voit ce Londres avec les rues pleines de brouillard, les carrioles, hein, qui roulent sur le macadam des rues, là, clac, 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 clac.
Ouais.
Et ce tueur qui est caché dans l'ombre, qui attend de fondre sur ses victimes. Et l'imagerie populaire qu'on en garde, c'est cet homme avec son chapeau de forme, sa houppelande, son petit sac de médecin à la main, là, ce qui est une image complètement inventée, qui n'a rien à voir avec le véritable tueur. Mais il y a quelque chose de fascinant dans cette vision-là. Et c'est pas la première fois que des crimes en série étaient commis. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs tueurs en série. En compense, par exemple, on en a déjà parlé ensemble, quelque part aux alentours de 1850, en Espagne, il y avait eu Roma Santa qui se prenait pour un loup-garou
oui.
Et qui assassinait des gens, qui sera d'ailleurs l'un des chapitres dans mon prochain livre sur les tueurs de l'occulte, un chapitre sur Roma Santa. Et avant lui, donc, si on recule encore plus loin, bien sûr, au 17e siècle, il y a eu, fin du 16e, début du 17e, il y a eu les crimes que l'on croit être ceux de Erzsébet Báthory, donc la comtesse de sang. Et là, on est en Slovaquie, et puis plus tôt même dans l'histoire, entre 1438 et 1440, le maréchal français Gilles de Rais aurait assassiné là, des dizaines d'enfants. Dans le cas de Bathory, dans le cas de Gilles de Rais, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une vision précise, puisque les aveux, à la fois des assassins comme les aveux, quoique Bathory n'a jamais été emmenée en procès, c'est les gens autour d'elle ont été amenés à procès, mais pas elle. Elle était condamnée par contumace là, par le tribunal de Hongrie. Mais c'est vrai que les assassins ou les acolytes ont témoigné, mais sous la torture. Alors évidemment, sous la torture, on peut dire n'importe quoi.
Bien sûr.
Mais dans le cas de Roma Santa, là, vraiment, on est vraiment dans autre chose. On est réellement dans l'univers du tueur en série. Et il y avait eu également, à la fin du 19e, un tueur français, dont on se reparlera à une autre occasion, mais qui est fascinant, qui est un peu le Jack l'Éventreur français, mais qui est passé un peu à l'oubli à cause, justement, des crimes de l'Éventreur, qui s'appelait un dénommé Vacher, hein, qui parcourait les Landes en France et qui assassinait des jeunes femmes, des crimes tout à fait sordides, mais qui se produisent à peu près à la même époque que l'Éventreur.
Okay.
Et comme il va de village en village, on est moins dans le contexte de l'endroit de la ville, hein, parce que le tueur en série, ce qui frappe le tueur en série dans l'imagerie populaire, c'est le tueur qui réussit à terroriser une ville.
Ouais.
Hein, c'est la ville. Hein. Jack l'Éventreur, c'est le tueur de Londres. L'étrangleur de Boston, ben, il tenait dans sa main la ville de Boston. Hein. Manson, c'est le tout Hollywood. Hein. Le tueur en série, c'est quelque part, il y a le fantasme de ce tueur anonyme au milieu de la foule et de cette ville qu'il tient sous son emprise.
C'est intéressant ce que tu dis, Christian, dans une presse qui est un peu moins internationale qu'aujourd'hui, qu'on ait des événements similaires qui se passaient littéralement en parallèle. Est-ce que on reconnaît beaucoup de Jack l'Éventreur, entre guillemets, à l'international, en Europe particulièrement? Ou?
Ben non, parce que l'Éventreur a occupé un tel espace, parce que la presse britannique était très populaire à l'époque, et la presse britannique, ben, comme les crimes de l'Éventreur étaient perçus par la presse britannique comme étant également des crimes à caractère à la fois social et disons xénophobe, hein, parce que les Britanniques se disaient c'est sûr que ça ne peut pas être un Britannique qui commet ces crimes, il faut que ce soit un étranger. Et qui plus est, les crimes étaient commis dans les quartiers pauvres de Londres, le East London, principalement les quartiers de Spitalfield et de Whitechapel, donc deux quartiers qui étaient majoritairement composés d'immigrants et principalement d'immigrants juifs. Donc on voit le sentiment antisémite ici là, c'est sûr que c'est un juif qui commet ces crimes là. Donc tous les crimes là, dans le cas de Roma Santa, c'est un crime qui avait à l'époque, la presse espagnole avait abondamment parlé de Roma Santa, mais là aussi il faut, comme dans à peu près n'importe quel phénomène, que ce soit les phénomènes d'OVNI, que ce soit les phénomènes de tueurs en série, les phénomènes de fantômes, on a une barrière de langue. Et l'anglais étant un peu la langue internationale,
oui,
ben les crimes de l'Éventreur ont trouvé écho partout dans le monde. Hein. La presse étrangère en a parlé aussi, mais principalement les journaux qui étaient de langue anglaise, et on parle par exemple au Canada ou les États-Unis, ont repris la manchette sur les crimes de l'Éventreur, alors que les crimes de Roma Santa, qui étaient tout aussi monstrueux, mais qui se produisait dans un autre cadre. Hein. Les victimes disparaissaient, on ne les trouvait pas. Et dans le cas de l'Éventreur, les victimes, malheureusement, étaient retrouvées immédiatement. Là. Dans certains cas, même, les victimes, je pense par exemple à Catherine Eddowes, elle a été retrouvée quelques minutes après son meurtre. Hein.
Mm-hmm.
Donc, il y avait un côté instantané. Le crime était commis et le lendemain, la presse disait « Ah, une autre femme assassinée dans les rues de Londres! » Alors que dans le cas des crimes de Roma Santa, c'était des crimes sur une longue période de temps où on ne retrouvait pas les victimes. À un moment donné, les gens disparaissaient. On disait, c'est curieux. Et ces gens disparaissent et ils ont un dénominateur commun. Toutes ces personnes-là ont été guidées à travers les montagnes du nord de l'Espagne, là, les montagnes de Galice. Ils ont été conduits dans les montagnes de Galice par ce guide qui était Roma Santa. Donc là, on a comme commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre les deux. Mais dans le cas de l'Éventreur, les crimes étaient immédiatement identifié. Et qui plus est, dans le cas de l'Éventreur, et on va le voir aussi avec notre crime de ce soir, parce qu'il l'a rejoint à plusieurs niveaux.
Dans les théories, du moins.
Dans les théories, et par un concours de circonstances assez incroyable, notre assassin de ce soir sera ad vitam aeternam associé à l'Éventreur. Il fait partie du mythe de l'Éventreur.
Dans ses derniers instants,
il fait partie des crimes c'est associé à l'Éventreur. Et dans le cas des crimes de l'Éventreur, il y avait cet aspect de lettres, hein, qu'on n'avait jamais vu. Roma Santa voyait pas des lettres au gouvernement espagnol, là. Alors que dans le cas de l'éventreur, même si on sait aujourd'hui que les lettres envoyées par Jack l'éventreur n'étaient pas de la main de l'éventreur, hein, au départ, ça commence par une blague d'un journaliste qui envoie une lettre à la presse. Hein, il n'envoie pas la lettre à la police, il envoie la première lettre où l'éventreur va trouver son nom. Hein. C'est une lettre qui est envoyée à l'agence centrale de la presse à Londres. Et c'est dans cette lettre écrite à l'encre rouge, une belle écriture, un manuscrit, où l'auteur décrit un peu les crimes. Et là, à la fin, il se moque un peu des services de police en disant « Ah, la police aime bien me trouver des surnoms » parce que la presse et la police l'avaient surnommé de tablier de cuir. Et pourquoi tablier de cuir? Parce qu'on se disait, si l'éventreur commet ses crimes dans les rues de Whitechapel, mais comment se fait-il qu'on ne le voit pas? Hein? Il dépeçait littéralement ses crimes. Je n'entrerai pas dans les détails. Mm-hmm. Je sais que tu connais un peu le sujet pour avoir visité les lieux où les crimes ont été commis. Donc, ouais. tu t'es un peu plongé dans ce mythe de l'éventreur. Les crimes étaient tout à fait monstrueux. Et on se disait, mais si l'éventreur ne se fait pas surprendre, comment se fait-il? On devrait le voir. Ses vêtements doivent être maculés de sang. Et comme dans les quartiers pauvres de Londres, il y avait les abattoirs et les grandes boucheries. Bon, on se disait, ben, quelqu'un qui irait travailler aux abattoirs avec des couteaux autour de lui, un tablier de cuir, passerait inaperçu. Les gens le verraient couvert de sang, disant, ah, c'est probablement quelqu'un qui travaille aux abattoirs. Donc, on s'était mis à songer que l'éventreur se devait s'habiller comme un ouvrier d'abattoir, et c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Et donc, dans cette première lettre, donc, envoyée à l'agence centrale de la presse, on est en septembre 1888, l'auteur signe en disant, bon, ben, puisque la police aime bien me trouver des surnoms, j'ai bien aimé celui de tablier de cuir, ça m'a bien fait rire, mais en voici un pour vous régaler. Et là, il signe, votre ami, sincèrement vôtre, Jack l'éventreur. Donc, le nom va se cristalliser, hein, il devient le symbole de ses crimes commis dans le East London, mais on sait que cette lettre-là a été écrite par un journaliste, une blague qu'il a voulu faire. Et à partir de ce moment-là, on n'avait jamais vu ça, un assassin qui écrivait des lettres à la police. Donc, à partir du moment où la presse publie cette lettre-là, ben, on dirait que ça, hein, ça devait être l'Internet et le Facebook de l'époque.
Ouais.
On se disait, hey, moi aussi, je veux aussi ma photo. Hein, moi aussi, je veux être dans la photo. T'sais. Fait que tout le monde se sont mis à écrire des lettres qu'ils envoyaient à la presse, qu'ils envoyaient à la police, qu'ils envoyaient à tout le monde. Et tout le monde signait Jack l'éventreur. Là, c'était tout le temps des nouvelles lettres. Oui, mon prochain crime sera à l'angle de telle ou telle rue. Mon prochain crime sera à telle ou telle date. Et toutes ces lettres-là étaient signées Jack l'éventreur. On estime que durant la période là, de 1888, début des crimes, hein, le premier crime de l'éventreur, quand on parle de crime de l'éventreur, c'est bien, bien important de mentionner qu'on parle de 5 victimes canoniques que tous les experts reconnaissent être les victimes de l'éventreur, mais il est possible qu'il y en ait eu un peu plus. Hein, on parle de 5 victimes canoniques, mais il est possible qu'il y en ait eu 6, 7 ou même 8 victimes. Mais on est incertain, mais il y en a 5 que ça ne fait aucun doute que celles-là, elles ont été bel et bien signées Jack l'éventreur. Et donc, au moment où ces crimes-là sont commis, la police va recevoir ces fameuses lettres, après la fameuse lettre du 25 septembre, et là, tout le monde se met à écrire. On estime que la police a dû recevoir à peu près 300 lettres signées Jack l'éventreur. Et de toutes ces lettres-là, on sait tous que ces lettres-là n'ont pas été signées de la main de l'assassin.
Okay, aucune.
D'ailleurs, il y en a même dans certains cas, certaines de ces lettres-là, on a pu identifier l'auteur. Et l'auteur a été arrêté et a reçu une amende pour un méfait. Donc, on savait qui étaient les personnes. De toutes ces lettres-là, il y en a une, toutefois, qui reste très particulière, qui n'a pas été envoyée ni à la presse, ni à la police. Hein. C'est une lettre. Il faut savoir qu'à l'époque, quand les crimes ont été commis, il y avait un comité de vigilance qui s'était développé dans les rues de Londres, dans les quartiers pauvres, et on utilisait un peu ces crimes-là pour se faire un peu du capital politique. Et il y avait une espèce de grand gueule à l'époque, un type qui s'appelait George Lusk, et lui disait, il aimait bien monter sur sa petite caisse en bois, là, au milieu des attroupements, puis là, il criait, olé, olé, c'était quasiment un crieur de journaux. Là.
Oui.
Mais lui, ce qu'il disait, c'est, oui, mais si ces crimes-là avaient été commis dans les quartiers riches, hein, les quartiers de Lambeth, les quartiers du West London, l'assassin aurait depuis longtemps été arrêté. C'est parce que nous, on est des pauvres, parce que nous, on est des étrangers, parce que nous, on est des désœuvrés. C'est pourquoi la police laisse faire. Si c'était les femmes de la haute qui se faisaient assassiner, la police serait beaucoup plus vigilante. Et ce George-là, ce qu'avait dit à un moment donné, Évidemment, toutes ces déclarations étaient rapportées dans la presse. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai formé une espèce de comité, le comité de vigilance, et on va arpenter les rues avec des bâtons, des gourdins, et Jack l'Éventreur, son arrestation n'est plus qu'une question d'heure. Nous, on va y mettre le grappin dessus. Il n'y a qu'à bien se tenir.
Et on sait que dans l'univers criminel, faut toujours se méfier de celui qui s'implique trop.
Oui, c'est ça. Et voilà que ce George Lusk, le 16 octobre 1888, il reçoit chez lui une petite boîte enveloppée dans un papier. Un papier d'ailleurs taché de sang. Il le développe, il l'ouvre. Et à l'intérieur, il y a un morceau de chair visqueuse. Et il y a une lettre d'accompagnement très mal écrite. Hein. Et c'est une lettre manuscrite, bien sûr. C'est une lettre très mal écrite. Beaucoup de fautes d'orthographe, difficilement lisible d'ailleurs. Et avec une prononciation très irlandaise. Hein. Il y a des mots qui sont écrits comme un Irlandais prononcerait le mot knife, par exemple. Il n'y a pas okay. de E à E ou knife. Il écrit K-N-I-F en insistant sur les F comme knife, comme l'aurait dit par exemple des Irlandais. Mais encore là, c'est très spéculatif. Et cette lettre-là dit à peu près ceci. Elle est assez courte. Elle dit « De l'enfer, cher monsieur Lusk, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Si vous pouvez attendre un peu, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. » Et la lettre est simplement signé « Attrapez-moi si vous le pouvez ou si vous le pourrez ». À ce moment-là, on voit que l'assassin ne signe pas Jack l'Éventreur, il ne signe pas l'assassin de Whitechapel, il fait simplement signer « Attrapez-moi si vous le pourrez », comme si, ou si vous le pouvez, comme s'il voulait se distancier de ce mythe de l'Éventreur. Hein, là, c'est comme s'il disait en même temps à George Lusk, vous voyez, les crimes de l'Éventreur ou de ce soi-disant Jack l'Éventreur, ça c'est une invention des journaux. Mais ici, là, avec moi, là, dans votre salon, avec cette petite boîte, là, on est tous les deux, vous et moi. C'est un peu comme si c'était le message que voulait adresser l'assassin. Et effectivement, à l'époque, la médecine médico-légale ne permettait pas de déterminer si la moitié du rein qui était dans la boîte, hein, annoncée par l'assassin, était celui de l'une de ses victimes. Mais on sait que quelques jours plus tôt, l'Éventreur avait assassiné ce qui va devenir sa quatrième victime canonique, qui était Catherine Eddowes, et l'assassin lui avait retiré un rein. Hein. Il volait des morceaux du cadavre. Ouais. Désolé pour les gens qui viennent de souper. Là. Il volait des morceaux de cadavre, et dans ce cas-là, il avait enlevé la moitié d'un rein. Il avait enlevé un rein. Or, le rein qui était envoyé à George Lusk, en considérant les connaissances médico-légales de l'époque, on sait que c'était un rein qui est... On sait que Catherine Eddowes était atteinte de la maladie de Bright. C'est une maladie qui entraîne un affaissement des tissus rénaux. Or, la moitié du rein que George Lusk avait reçu chez lui était un rein qui souffrait de la maladie de Bright. Et ensuite, on sait que l'artère rénale, chez à peu près tous les individus, peu importe leur gabarit, mesure à peu près 3 pouces. Or, quand l'assassin a retiré le rein dans le corps de Catherine Eddowes, on avait dans le cadavre une artère rénale qui mesurait 2 pouces. Et sur la moitié du rein envoyé à George Lusk, il y avait un reste d'artère rénale qui mesurait 1 pouce.
C'est à peu près
ça. Correspondait grosso modo. Donc, mais encore une fois, ça aurait pu être une blague d'un étudiant en médecine qui a pris un rein quelque part à la morgue puis l'envoyait à George Lusk, on ne sait pas. Mais cette lettre-là, hein, qu'on appelle la lettre dite de l'enfer, hein, from hell, cette lettre-là demeure très particulière. Dans toutes les lettres reçues à la police ou à des proches de la police ou aux journaux à l'époque des crimes de l'Éventreur, cette lettre-là doit être vraiment mise à part comparée aux autres. Et c'est, bon, comme je le mentionnais, c'est un peu la quintessence des crimes. Je veux pas trop en parler, parce que moi, quand je parle de Jack l'Éventreur...
On part, d'étudiant en médecine. Ça nous amène à notre personnage de ce soir.
Voilà.
Qui est surnommé, lui, l'empoisonneur de Lambeth.
Ouais, et l'empoisonneur de Lambeth, l'idée m'est venue de l'empoisonneur de Lambeth parce que, bon, quelque part, il rejoint Jack l'Éventreur, mais en même temps, on a beaucoup parlé de l'Université McGill ces derniers jours.
Hein, avec ça, quand même.
Les actuels, on parlait de McGill, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que un des grands tueurs en série associé à l'Éventreur a fait sa médecine à McGill. Et c'est donc, j'ai pensé à ce l'empoisonneur de Lambeth qui est de son nom est Thomas Neil Cream. Et regardons un peu son passé criminel qui va nous amener finalement dans les traces de l'Éventreur. Hein.
Assez spécial, hein, son passé criminel, parce que dans les années, on parle du 19e siècle, fin 19e siècle, d'avoir une bonne conduite, même si t'es un meurtrier en prison, bon, tu peux être libéré, tu peux pas faire ta peine au complet.
Oui, absolument.
C'était lousse à cette époque-là.
Oui, c'était lousse. En même temps, tu sais, tu es un homme blanc qui fait partie d'une certaine bourgeoisie. Tu es un médecin, hein. Et on sait, les médecins, et même encore aujourd'hui, hein, les médecins, c'est un peu, là, quand on regarde dans les professions là, les plus estimées, et on le comprend, les médecins sont tiennent le haut du pavé.
Absolument.
Hein? Donc, si c'est vrai aujourd'hui, c'est encore plus vrai à cette époque-là. Notre Thomas Neil Cream, il naît en 1850 à Glasgow, en Écosse. Et là, ses parents, alors que lui est âgé à peu près de 4 ans, ses parents décident d'émigrer au Canada et il s'installe au Québec. En fait, il s'installe dans la ville de Québec.
Ah oui?
Donc, c'est tout près de chez vous, là. Je veux dire, hein, quand tu regardes par la fenêtre, là, peut-être que Neil Cream a passé là, son enfance sur le trottoir.
Je pensais que c'est assez une fierté pour avoir mis une plaque commémorative. Ici, grandi. Ah, non,
oui,
je pense
a grandi Thomas Neil Cream, j'en doute. Donc, il grandit dans la ville de Québec. Et puis, éventuellement, il décide, ses parents sont des bourgeois, et il décide de s'inscrire en médecine, et il va donc aller s'installer du côté de Montréal pour faire sa médecine à l'Université McGill. Et il va sortir de l'Université McGill en 1876 avec un diplôme de médecine. Bon, quand il sort de l'Université McGill, il a deux surnoms. Hein. Certains l'appellent Monsieur Encyclopédie et d'autres l'appellent Monsieur Cyclope parce qu'il souffre d'un strabisme très important. Hein. Comme on dit, il a les deux yeux dans le même trou. Là.
Oh, okay.
Donc, si on veut se moquer de lui, hein, mais en même temps, c'est un individu qui est un érudit. Donc, quand on lui parle en pleine face, c'est Monsieur Encyclopédie, mais dans son dos, on se moque un peu de son strabisme. Donc, après être sorti de l'Université McGill avec son diplôme de médecine en main, il décide de retourner du côté de l'Europe et il va poursuivre des études en médecine à l'hôpital Saint-Thomas de Londres et également au Collège de médecine de l'Université d'Édimbourg, hein, qui est l'Écosse, qui est son pays natal. Donc, il termine ou il poursuit sa formation de médecin dans ces deux universités et dans cet hôpital très important de Londres, l'hôpital Saint-Thomas. Et ensuite, il revient s'installer au Canada. Et là, cette fois-là, il va s'installer du côté de London, en Ontario. Et à ce moment-là, il y a des gens qui commencent à mourir, des jeunes femmes qui commencent à mourir dans l'entourage de Neil Cream. Mais à ce moment-là, les policiers ne font jamais le lien entre lui et ces jeunes femmes. Jusqu'à la fin des années 70, 1870, on s'entend, son nom est cité pour la première fois en lien avec une jeune femme qui a subi un avortement illégal. D'ailleurs, on sait, les policiers suspectent Thomas Neil Cream de procéder à des avortements. Et donc, il y a une jeune femme qui décède. Et à ce moment-là, pour la première fois, son nom apparaît dans un rapport de police. Donc, des gens autour de cette victime disent aux policiers, bon, elle est décédée, visiblement d'une hémorragie. Évidemment, on gardait ça secret, hein, à l'époque, les avortements.
Ouais.
Puis on comprend les femmes qui allaient vers des avortements. Et tout ça se faisait sous le couvert. Hein. On ne parlait pas de ça. Et les femmes savaient qu'elles s'exposaient à des risques. Hein. L'avortement, aujourd'hui, ça nous semble une procédure tout à fait banale. Mais au 19e siècle, c'était pas si simple que ça. Là, un curetage et un avortement, c'était plus compliqué.
Ça peut être mortel.
Et à ce moment-là, les femmes savaient qu'elles s'exposaient à ce danger-là. Ici, hein, il y avait comme une espèce de, comment je pourrais dire, c'était un peu une espèce de solidarité. C'est-à-dire que si une jeune femme devait éventuellement soit mourir ou bien devenir stérile suite à l'avortement, ce qui arrivait fréquemment, on a tendance à l'oublier, là, mais l'une des premières conséquences des avortements était la stérilité. Donc, si une femme devenait stérile ou éventuellement décédait des suites d'un avortement, on gardait le silence autour de ça. On gardait le silence pour les autres. Parce que, bon, Monique est décédée, mais Françoise ou Denise pourra éventuellement avoir besoin d'un avortement. Et bon, on accepte le risque. Donc, on gardait secret le nom de l'avorteur. Et c'est rare que les avorteurs étaient dénoncés publiquement. Et c'est le cas de Thomas Neil Cream. Donc, on arrive à la fin des années 1870. Pour la première fois, donc, il y a cette jeune femme qui décède. Et lorsque l'on parle à des proches, hein, et souvent ça se faisait dans le milieu de la prostitution, donc on parle à des proches, des femmes qu'on disait à l'époque de mœurs légères. Donc, on parle, et l'une d'entre elles dit, ben voilà, elle laisse le morceau. Hein. Oui, il y a un médecin du quartier sud de London, Ontario, on s'entend, là.
Oui.
Oui, qui pratique des avortements, c'est le docteur Thomas Neil Cream. Donc, à ce moment-là, son nom apparaît sur un rapport. Mais on le comprend bien, on n'arrête pas un médecin aussi aisément que ça. Là. Donc, ça remonte en haut lieu. Le commissaire de police, oui, bon, c'est un médecin. Est-ce qu'on a vraiment la preuve qu'il y a eu avortement? On est un peu très prudent parce qu'on veut pas arrêter inutilement un médecin. Mais quoi qu'il en soit, Thomas Newcream, lui, il sent qu'il y a urgence d'agir. Il sent que l'étau se referme sur lui et éventuellement, il décide de franchir la frontière et il va s'installer du côté de Chicago. Mais il va reprendre ses fameuses activités et là, cette fois, il va s'associer avec une sage-femme d'origine afro-américaine, une certaine Hattie Mack. Et donc là, ils vont reprendre, en fait, il va reprendre ses vieilles habitudes et le jour... Il est un médecin généraliste. Hein? Bon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de grandes spécialités médicales. Il y avait le chirurgien puis le médecin, là, c'était à peu près tout. Puis souvent, l'un faisait l'autre.
Ouais.
On faisait les deux. Puis quand c'était pas trop grave, on allait chez le barbier. Hein, les gens ont oublié ça, mais au 19e siècle, les barbiers faisaient des petites opérations, hein, retiraient des verrues puis des trucs comme
ça. Ouais, qui est comme des esthéticiennes un peu là.
Oui, exactement. C'est d'ailleurs pour ça là. Le bureau du barbier, hein, le cylindre qui tourne là, avec la bande rouge qui tourne, ça représentait le sang.
Hein, ah, je savais pas.
Oui, donc c'était représentatif du sang et les barbiers non faisaient des petites chirurgies là, bon, de l'épiderme, disons okay. Ça comme ça. Mais c'est ce qui se faisait. Donc quand c'était pas trop grave, t'allais chez le barbier et sinon t'allais voir le médecin chirurgien. Mais souvent c'était le même individu. Donc notre Thomas Newcream et Hattie Mack vont s'installer. Ils ont loué. Il y a comme un cabinet médical où Newcream pratique et au-dessus il y a une chambre, on est dans West Madison Avenue à Chicago. C'est le quartier chaud là, de Chicago, hein, ce qu'on appelle un peu le red light du West Side.
Oh, okay.
Et donc, dans la chambre du deuxième, donc on procède là encore à des avortements comme il l'avait pratiqué à Londres. Et dans le cas de Thomas Newcream, la première sonnette d'alarme, la vraie sonnette d'alarme, arrive le 20 août 1880. À ce moment-là, il y a le corps d'une jeune prostituée, disons une femme de mœurs légères, Marianne Faulkner, qui est retrouvée dans une chambre qui n'est pas la chambre où Newcream fait ses avortements, mais une chambre un peu adjacente. Et cette jeune femme, elle est retrouvée dans un état de putréfaction avancée. Alors là, on fouille dans ses papiers. On découvre, tu sais, c'est quand même les coïncidences. Le médecin légiste constate qu'elle a subi un avortement. Quand on fouille dans ses papiers, on découvre qu'elle vient de la ville d'Ottawa au Canada et que le médecin qui pratique dans le cabinet d'en dessous, Thomas Newcream, est lui-même un Canadien qui a séjourné là, longuement là avant de passer du côté des États-Unis. Il pratiquait la médecine à London, en Ontario. Donc, ce nombre de coïncidences est tellement élevé que la police commence à interroger Newcream et éventuellement, on interroge également Hattie Mack, hein, qui est cette sage-femme afro-américaine qui pratiquait avec Newcream. Et évidemment, là, l'époque étant ce que c'était, Hattie Mack va rapidement... Bon, j'imagine qu'on l'a peut-être brassé un peu. Hein, c'est une afro-américaine. Donc, puis l'autre est un homme blanc d'âge moyen, médecin. Donc, tu comprends, lui...
Déjà là,
il y a un aura de respectabilité. Donc, quoi qu'il en soit, Hattie Mack va rapidement avouer qu'elle connaît cette Marianne Faulkner et effectivement qu'elle est venue voir le docteur Cream, qu'ils ont procédé à un avortement et qu'elle est décédée des suites de cet avortement et qu'ils ont déplacé le corps dans une autre chambre. Ils songeaient à se débarrasser éventuellement de la dépouille, mais trois jours après, il y avait une telle odeur que rapidement, des autres locataires du bâtiment s'en sont plaints à la police et c'est comme ça qu'on a trouvé le corps. Donc, il y a eu quand même négligence. Le Newcream s'est comme mis un peu les pieds dans les plats. Il aurait pu se débarrasser plus rapidement du corps. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont arrêtés, Hattie Mack et le docteur Cream sont arrêtés. Il y a procès. Et durant le procès, bien sûr, chacun se renvoie la balle. Hein. Newcream dit non, elle, c'est une sage-femme. Et c'est une sage-femme, elle accouche des femmes, mais également, elle fait des avortements. Je lui loue la chambre du deuxième, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Elle, évidemment, se défend. Elle accuse Newcream. Et tu l'as bien deviné, hein, entre la parole d'une femme afro-américaine, sage-femme, associée à des avortements, et un médecin respectable, blanc...
Non.
Ben évidemment, le procès est sans surprise. Le procès se termine. Atimak est condamné à la prison à vie et le docteur Neil Cream, lui, s'en sort sans la moindre représailles, rien du tout. Il ressort du palais de justice sourire aux lèvres.
Mais c'est pas son premier rodéo après ça. Hein?
Non, c'est ça. Donc il va entreprendre. À partir de là, c'est comme s'il avait acquis une espèce de sentiment de surpuissance, d'omnipuissance. Puis là, il dit, ben là, je suis comme au-dessus des lois, on ne peut pas m'arrêter. Alors il va entreprendre cette carrière d'assassin qui va le conduire dans les pas de Jack l'Éventreur. Mais ça, je t'en parle après la pause.
Radio X-Files. Radio X.
Saucisse contre le barbecue.
Julien.
Saucisse Oktoberfest.
Yeah.
Saucisse chorizo.
Olé.
62 variétés de saucisses Sochaux prêtes pour vos barbecues, dont la fameuse betterave et chèvre. Sochaux le saucissier, l'original.
Il y a des berlines qui riment avec ennui. Mais c'est pas le cas de la Nissan Sentra 2024. Avec son look sportif, son design redessiné et sa conduite dynamique, c'est la berline parfaite pour échapper à l'amorosité. Un coup de pédale et vous aurez envie d'écouter de la musique à tue-tête, les fenêtres ouvertes. Faites juste pas installer des néons. Ça, c'est non. Durant la vente flash de Nissan, louez la Nissan Sentra S Plus 2024 à partir de 277 $ par mois pendant 24 mois et obtenez un boni de 500 $. Faites vite, ça se termine le 22 juin. À compte de 2199 $, valeur au détail de 26 917 $ sur approbation de crédit, détail chez Nissan.
Nous autres chez Ralbock, on l'aime notre bière de microbrasserie. Il y en a pour tous les goûts. La petite bière douce facile aux grosses bières fortes. C'est garanti que tu trouves quelque chose à ton goût dans le temps. Chez Ralbock, on s'y recevoir, c'est bien connu. Fait que viens te faire du fun direct sur place au pub Ralbock de Saint-Jean-Port-Joli. Il te reste juste à te prendre une bière puis profiter de la vue.
Du fun, des chums, la bière. Viens nous voir chez Ralbock.
Profitez de la grande vente d'été avec Concept Piscine Design.
Pour un temps limité, Spa Phantom, fabriqué au Québec pour aussi peu que 4 999 $, livraison rapide. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur meubles de jardin sélectionnés et très grand choix de pergolas et gazebos en magasin. Concept Piscine Design est aussi là pour votre projet de piscine hors terre ou creusée.
Concept Piscine Design, installateur de bonheur depuis plus de 30 ans. Henri IV, sortie Sainte-Geneviève.
Ayez du style cet été avec Logo Sport. Découvrez notre gamme de casquettes pour enfants et adultes à l'effigie de vos ligues sportives favorites, dont LNH, MLB, NFL et NBA. Visitez-nous en magasin ou au logosportqc.com. Logo Sport, en plein cœur du Vieux-Québec.
Le 4 septembre, la Fondation Maison Albatros vous invite à son 4e spectacle bénéfice mettant en vedette Marc Hervieux, Marie-Denise Pelletier, Christian-Marc Gendron, Manon Séguin et l'Orchestre Symphonia de Lanaudière en version Big Band. Billets en vente à amphithéâtre-cogeco.com.
À la recherche d'un camion pour ton entreprise? Il ne te connaît pas ProLeasing? Tu devrais. Parce que ProLeasing, c'est l'expert au Québec de la location commerciale, que ce soit pour un terme de 6 mois ou de 6 ans. Chez ProLeasing, tu vas trouver un méga stock de toutes les marques de pick-up, camions cubes, cargo, et tu profiteras de conditions de location flexibles comme nulle part ailleurs. ProLeasing, c'est sur le boulevard Charest, angle Saint-Sacrement. Passez voir en personne ou en ligne au proleasing.com.
Conservez votre beauté naturelle avec Dr Jean et Ariane Archambault, infirmière clinicienne en médico-esthétique. Réservez votre rencontre d'ici le 30 juin et obtenez 10 unités de toxines gratuites. Ariane Archambault, confiance et résultats sur Facebook et Instagram inf.archambault.
Tu veux un travail bien fait, solide pour longtemps? Fais comme moi. Pour ma nouvelle fondation, j'ai fait appel à Béton Laurier. Ils ont l'équipe, leur béton et leur bétonnière.
Ah oui! Il y a aussi une flotte de grues et de machinerie lourde pour tous vos chantiers! Informez-vous! BétonLaurier.com!
Québec, prêt à faire sécher vos dents au mois d'août? Le Comédia Fest est de retour pour une 25e édition du 1er au 24 août prochain avec une imposante programmation. Venez voir des humoristes comme Catherine Levac, Mathieu Pepper, Jean-Marc Parent, Corinne Côté, Phil Roy, Alexandre Barrette, Adib Al-Khalidé, Mathieu Dufour, Billy Tellier, Liliane Blanco-Binette. Faites vite! Premier arrivé, premier crampé! Laissez passer en prévente sur comediafest.com.
Une collaboration de l'Auto-Québec et Vidéotron.
Équipez-vous pour l'été chez Sport Expert et Atmosphère. Profitez de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de vélos, d'articles de camping, de kayaks et bien plus. Détails en magasin ou sur sportexpert.ca.
J'arrive pas à croire qu'on s'apprêtait à passer tout droit.
On n'aura pas droit au rabais pour notre voiture électrique?
Non, je parle de la prévente des passeports du Challenge 255. À 67 et 61 chacun, c'est 15 $ moins cher que le prix régulier.
Une activité familiale pas loin de chez nous. Et les passeports enfants sont gratuits.
Adrénaline garantie, le Challenge 255.
255 revient du 15 au 18 août prochain. Dépêchez-vous! Passeport en prévente au challenge255.com. Bonne fête nationale à tous! Partenaire émérite, le gouvernement du Québec et Tourisme Centre du Québec.
Hey, vous les cousins du Québec, nous en France, on a la gastronomie prétentieuse. Tandis que vous, vous avez la gastronomie généreuse. Généreuse comme le menu du restaurant Côte à Côte dans Le Bourgneuf, avec ses côtes levées goûteuses et ses grillades juteuses et ses tabarnouches de Montartare. Le restaurant Côte à Côte va réjouir même votre budget, avec sa carte soupe-tôt à 25$. Au nom de tous les maudits français, je dis chanceux Québec d'avoir le restaurant Côte à Côte unique au monde et uniquement dans Le Bourgneuf.
La trame sonore de ta fin de semaine, c'est Légendes du Rock. Légendes du Rock. Avec Pee-wee. Samedi, dimanche, 9h. Do you feel
it? Radio X.
Présenté par Planet X. Ce week-end, jazzez votre quotidien, rockez vos fantasmes, trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
Merci d'être à l'écoute des Radio X-Files et on tombait en plein dans le vif du sujet avec l'histoire de l'empoisonneur en série dans, en fait, le quartier de Lambton, monsieur, le, en fait, docteur, devrais-je dire, Christian, Thomas Neil Cream.
Oui, voilà, on s'est quitté, on était en 1880. Neil Cream venait d'échapper à une accusation de meurtre parce qu'il a réussi à faire porter le chapeau à son associé, une sage-femme, Atima, qui est une femme, une afro-américaine, qui travaillait, qui l'accompagnait dans des avortements. On venait de trouver le corps d'une certaine Marianne Faulkner. Le corps était déjà en état de décomposition et l'autopsie avait révélé qu'il s'agissait d'un avortement. Mais bon, Cream réussit à convaincre les autorités que c'est pas lui qui a commis le crime. Et c'est finalement Atima qui va écoper d'une prison à vie. Donc, il sort du tribunal, libre comme l'air. Et là, il se sent surpuissant. Et l'année suivante, 1881, donc bien sûr, il continue sa pratique à Chicago comme médecin. En 1881, il fait la rencontre d'une certaine Julia Stott. Et Julia Stott, elle est déjà mariée. Donc, elle rencontre le docteur Cream pour des problèmes de son époux. Hein, son problème, son mari est alité, la difficulté à respirer. Donc, elle rencontre le docteur Cream à ce sujet-là. Et là, peu à peu, entre Julia Stott et Cream, va se développer une liaison. Elle devient sa maîtresse. Et éventuellement, Cream... Et ça se fait assez rapidement, en quelques semaines, quelques mois. Et éventuellement, Cream va donner à Julia Stott des médicaments pour son mari. Hein? Et le mari en question va mourir dans d'horribles souffrances.
Et ça, lorsque... c'est étonnant de faire des victimes. Je comprends que c'est l'ennemi dans ce cas-là, là, pour
oui, c'est
lui,
ça.
À ses yeux.
C'est mais... l'empereur. C'est l'empêcheur de tourner en rond, ce qui l'empêche. Mais à l'époque, il faut se remettre à l'époque, il peut pas, lui, s'il voulait, Neil Cream ne pourrait pas épouser Julia Stott. Hein? On ne divorce pas, on est dans un milieu catholique. Hein? Donc, c'est pour le meilleur et pour le pire.
Ouais,
on peut être veuve, on peut marier la veuve. Donc, éventuellement, Daniel, l'époux, meurt, hein, dans des convulsions épouvantables.
Oh,
et lorsqu'il est interrogé, bon, il y a une autopsie qui est faite, et à l'autopsie, on découvre qu'il a été empoisonné à la strychnine. C'est un poison là, épouvantable, la strychnine. C'est un poison qui n'est... C'est pas un poison paisible. Hein. C'est un poison qui entraîne des convulsions, des vomissements. C'est vraiment une mort atroce. Et donc, le légiste conclut qu'il était empoisonné à la strychnine. Les policiers interrogent Julia Stott, parce qu'évidemment, dans ce genre d'affaires, on questionne toujours l'époux, l'épouse. Hein. C'est toujours le premier concerné.
Mm-hmm.
Et éventuellement, questionné par la police, Julia Stott, quel est son niveau de responsabilité? Ça reste un peu ambigu, mais elle sera pas accusée. Mais elle dit, elle avoue assez rapidement au policier que elle a donné les cachets que lui avait conseillé le bon Dr. Cream. Elle a donné ces cachets-là à son mari et c'est suite à cette médicamentation que Daniel est mort. Alors là, éventuellement, Cream est arrêté. C'est la deuxième fois qu'il se fait arrêter. Mais là, cette fois, il n'y échappe pas. Il est jugé et il est condamné pour le meurtre prémédité de Daniel Stott. Il est condamné à la prison à vie et il est incarcéré à la prison de Joliet, qui est juste en banlieue de Chicago. Et là, comme tu l'as si bien dit au début de l'émission, quand on est un médecin de race blanche qui fait partie de la bourgeoisie, ça se peut qu'on soit libéré avant, tu sais, et c'est exactement ce qui va arriver à Neil Cream. Il est libéré après 10 ans seulement. Ça peut paraître étonnant, là. Mais il est libéré après 10 ans. On est à l'été de 1891. Et là, éventuellement, ben, tu comprends qu'il ne peut plus pratiquer, à Chicago, hein. Il est un peu fiché. Donc, il décide de faire son baluchon. Et là, il va gagner l'Angleterre où il va aller s'installer dans les quartiers du West End. Les quartiers principalement de Lambeth et de Belgravia. Et tu te rappelles un peu plus tôt dans l'émission, je t'ai parlé de Jack l'Éventreur qui commettait ses crimes dans le East London. East London, c'est les quartiers défavorisés de Whitechapel et de Spitalfields. Et les quartiers huppés de la ville de Londres, hein, la haute bourgeoisie, c'est les quartiers de Lambeth et de Belgravia. Et à partir de là, Neil Cream va devenir ce qui va lui valoir son surnom de l'empoisonneur de Lambeth. Ses raisons, ses motivations criminelles restent très nébuleuses. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais soudainement, il décide de s'en prendre aux prostituées. L'histoire ne nous permet pas de savoir est-ce qu'il aurait contracté par des liaisons un peu illicites, il aurait contracté une maladie vénérienne. Est-ce que c'est le fait d'avoir lui-même dû appliquer d'avoir pratiqué à de nombreuses reprises des avortements auprès principalement de femmes de mœurs légères ou de prostituées qui l'a éventuellement placé sur une voie où il s'est mis à détester ce type de femmes.
Okay.
Quoi qu'il en soit, à partir du moment où il met les pieds à Londres, il devient cet empoisonneur. Donc, il fréquente les rues des quartiers huppés de la ville et les bars. Il rencontre des femmes, bien sûr. Souvent, ce sont des femmes. Là, on est vraiment dans le contexte, hein, quand je parle de prostituées. Là, il faut faire une énorme distinction entre les crimes de l'Éventreur, qui étaient des prostituées, et les crimes de Neil Cream. Dans le cas des crimes de l'Éventreur, les prostituées, quand les médias disent « Ah, l'Éventreur assassinait des prostituées », il faut voir ces prostituées davantage comme des sans-abri, des SDF. Là. C'était vraiment des femmes alcooliques en mauvaise santé qui arpentaient les rues du East London, pauvres, là. Et elles espéraient pouvoir, à 1h du matin, quand les bars fermaient, elles avaient dépensé les quelques pennies qu'elles avaient, elles arpentaient les rues dans l'espoir de trouver un client qui leur donnerait les quelques pennies nécessaires pour se louer une chambre. Il y avait à l'époque des espèces de dortoirs communs. C'était épouvantable. C'est vraiment la misère noire. C'était des grands dortoirs remplis de lits et on pouvait payer pour quelques pence, on pouvait se payer un lit. Puis si on n'avait pas les quelques pence nécessaires, on pouvait se mettre à 2 ou à 3. Donc tu t'imagines, on pouvait se retrouver à 2 ou 3 dans un même lit. C'était vraiment des paillasses remplies de punaises. Là. C'était vraiment sordide. Et ces femmes-là cherchaient donc à se payer un lit dans un dortoir quelque part, parce que la loi britannique empêchait les gens de dormir étendus. Tu pouvais pas dormir étendu dans un banc de parc, comme on le voit par exemple avec les sans-abri à Montréal, par exemple. Puis j'imagine que vous avez le même problème à Québec, là. Tu sais, donc le problème de l'itinérance est de plus en plus omniprésent. Mm-hmm. Et à cette époque-là, il existait ce problème-là. Et à cause de la loi britannique, ce que les gens devaient faire s'ils ne voulaient pas recevoir une amende de la police, comme les maisons dans ces quartiers pauvres étaient très rapprochés les unes des autres. Les passages étaient très étroits entre les maisons. On tendait une corde d'un mur à l'autre et on s'accrochait sur la corde. Comme ça, la police ne nous arrêtait pas. On pouvait dormir comme ça, accroché sur la corde. D'où l'expression hein, « j'ai passé la nuit sur la corde ».
Ça vient de là.
Donc, on tendait des cordes entre les maisons, les petits passages étroits, et les gens s'accrochaient. Donc, la loi spécifiait ne pas être étendus sur la voie publique. Ils n'étaient pas étendus sur la voie publique.
Ils étaient suspendus
à une corde. Donc, il faut voir les victimes de l'Éventreur comme des femmes. Oui, des femmes qui s'adonnaient à la prostitution, mais c'est une prostitution là, très obligée là, pour essayer de se trouver un lit dans un dortoir à la dernière minute. Ce sont des femmes malades, des itinérantes. Alors que les femmes, les prostituées qui vont être la cible du docteur Neil Cream, ce sont des prostituées des quartiers huppés. Ce sont des femmes de mœurs légères, bien sûr, mais avec des robes froufroutantes, des chapeaux à plumes, etc. Donc, tu vois un peu le genre. On est vraiment plus dans le même univers. Donc, Cream fréquente un peu les bordels, fréquente les rues, fréquente les bars. Et là, il rencontre de ces jeunes femmes. Et il est un médecin. Il a une carte de médecin. Bon, évidemment, il y a des cartes avec des faux noms. Mais c'est un médecin. Et quand il parle dans son discours, on se rend compte que c'est un médecin. Hein? Il a une façon d'aborder les gens, de parler de pathologie en utilisant de grands mots très impressionnants. Donc, il va rencontrer de ces prostituées et il leur dit qu'il est d'ailleurs un médecin de l'hôpital Saint-Thomas, là où il a fait d'ailleurs ses études. Il connaît bien l'hôpital Saint-Thomas. Hein? 20 ans plus tôt, il a fait des études à Saint-Thomas lorsqu'il a complété sa formation médicale. Donc, il dit qu'il est médecin à Saint-Thomas. Et évidemment, il est dans un bar, il attend l'occasion. Hein. Il voit, par exemple, une femme ou dans un restaurant, ou peu importe, une femme, par exemple, qui a une mauvaise toux, il l'approche. « Bonjour, madame, je vous ai entendu... Laissez-moi... Bon, pardonnez-moi, mais l'indiscrétion, mais je vous ai entendu tousser. Vous savez, je suis médecin. » Et il leur donne des cachets. Et ces cachets-là, ce sont des pilules de strychnine. Et ces pilules de strychnine sont enveloppées d'une gélatine, ce qui fait qu'elles mettent du temps à réagir. Donc, ces femmes font confiance au conseil de ce bon médecin qui leur donne comme ça spontanément des gélules. Elles prennent ces gélules et éventuellement, une heure ou deux après, elles commencent à avoir des convulsions et elles meurent empoisonnées à la strychnine. Une mort excessivement violente.
Assez rapide quand même, c'est 2 heures. C'est pas, d'habitude, c'est quoi? C'est dans la demi-heure suivant l'ingestion?
Ouais,
ou...
C'est ça. Mais dans le cas de dans le cas des pilules de Neil Cream, ça pouvait prendre jusqu'à 2 heures avant que les faits se se fasse vraiment sentir. Et là, ben, les victimes se multiplient. Hein? Hélène Danoir, 19 ans. Bon, ce sont tous des femmes de mœurs légères. Matilda Clover, 27 ans. Emma Shrivel, 18 ans. Alice Marsh, 21 ans. Donc, ce sont toutes des jeunes femmes qui étaient de mœurs légères et chacune ont reçu comme ça ce fameux médicament du docteur de on ne sait pas trop. Hein? Le docteur, le docteur qui louche, appelons-le comme ça,
ouais.
Puisqu'il n'a pas de nom. Le seul dénominateur commun, c'est que ces femmes-là ont rencontré un médecin qui souffrait de strabisme. Mais évidemment, pour Neil Cream, et ça c'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de tueurs en série, le besoin de faire partie de l'enquête. Hein? Et à un moment donné, lire les crimes dans le journal n'est plus suffisant. On veut faire partie de l'histoire. Et Neil Cream sent qu'il a, hein, c'est un narcissique, il a besoin de faire partie de l'histoire, alors il se met, puisque quelques années plus tôt, Jack l'Éventreur le fait, pourquoi pas lui? Il se met donc à écrire des lettres à la police sous différents noms d'emprunt, et là, il aiguille les policiers. Vous savez, cette jeune femme retrouvée morte à la strychnine, vous devriez enquêter sur un tel. Donc, il donne des noms. Généralement, ce sont des noms de personnalités qui font partie de la bourgeoisie londonienne, qui sont bien connus. On pense, par exemple, à un moment donné, il cite Lord Russell. Puis Lord Russell, ben, c'est l'héritier des fameuses librairies, là, W.H. Smith. Je sais pas si tu connais ces librairies-là.
Ça dit quelque chose.
Mais
ouais.
Aux États-Unis, c'est très connu. Dans le monde anglophone, ce sont des librairies très, très connues. Donc, il l'accuse lors d'un le compte machin. Donc, il aime bien comme ça essayer d'aiguiller la police. Et éventuellement, dans ses lettres, même s'il essaie d'aiguiller les policiers vers des suspects, ces lettres contiennent suffisamment d'informations qu'à un moment donné, les policiers ne sont pas dupes. Et même si elles sont signées de différents noms, on reconnaît l'écriture.
Mais oui.
C'est une écriture qui est identique. C'est toujours le même auteur. Et il donne dans ses lettres des informations qui ne peuvent être connues que de l'assassin. Et éventuellement, ce qui va perdre le docteur Cream, en octobre 1891, il rencontre une autre jeune prostituée, une certaine Lou Harvey, qui de son vrai nom là, s'appelle Louisa Harris, et elle a des rougeurs au front. Le docteur Cream l'approche. « Oui, je vois que vous avez des plaques rouges au front. Je suis médecin. J'ai des cachets pour vous. » Donc, tu vois le scénario. Il lui donne ses pilules. Et au moment où elle se prépare à les prendre, donc elle rentre chez elle, elle a les pilules, les gélules en main, au moment où elle se prépare à les consommer, elle se rappelle cette histoire qu'elle a lue dans le journal d'un mystérieux personnage qui a donné apparemment des pilules qui empoisonnent des prostituées. Donc, elle a la vivacité d'esprit de les glisser dans sa main, hein, parce qu'elle est accompagnée de Neil Cream, et lui attend de s'assurer qu'elle va prendre les pilules. Elle les glisse dans son gant et elle fait semblant de les prendre, et là, après ça, Cream quitte. Mais éventuellement, elle va se rendre au poste de police, remettre les pilules aux policiers en expliquant les circonstances dans lesquelles elle a obtenu les pilules. L'analyse démontre que ce sont bel et bien des pilules, des gélules qui sont faites de strychnine. Et là, à ce moment-là, on est sur la piste. Elle sait qui est l'homme qu'elle a rencontré. Elle est capable de l'identifier. Et les policiers, éventuellement, procèdent à l'arrestation de Neil Cream.
On la félicite. Tu sais, d'avoir le doute que quelqu'un te donne quelque chose gratuitement puis dit « Tiens, prends ça ».
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Il y avait toujours, hein, parce que, hein, elle donne, quand elle dit au policier, elle dit, bon, c'est un médecin, bon, je le vois souvent à tel ou tel endroit, dans le quartier de Lambeth. Elle le décrit, hein, il a un chapeau haute forme, une cape de velours sur les épaules.
Il est en train d'assembler les poings, là, tranquillement.
Oui, tu sais, il fait partie, il a le portrait robot de cette, de la jante masculine de cette bourgeoisie anglaise, là. Tu sais, donc, il correspond à ce portrait-là. Donc, on arrête Cream. Et là, d'abord, on commence par comparer son écriture. L'écriture montre bel et bien que c'est lui l'auteur des fameuses lettres. Et éventuellement, les détails que contiennent ces lettres montrent aussi qu'il est clairement l'assassin de Lambeth. Et il est reconnu éventuellement aussi, on le fait défiler, et Lou Harvey reconnaît qu'il est le médecin qui lui a donné ces fameux cachets qu'elle a résisté à l'envie de prendre et qui finalement lui ont sauvé la vie. Neil Cream est accusé donc de ces meurtres. On lui colle sur le dos les empoisonnements des derniers mois, hein, et parce que c'est toujours le même modus operandi. À son procès, il se montre très distant. Il se moque du procureur, se moque du juge. C'est vraiment l'individu narcissique qui est au-dessus de tout, là.
Okay.
Et éventuellement, Neil Cream, parce que là, je vois le temps qui file.
Oui.
Donc, Neil Cream est condamné à mort et il va être éventuellement pendu à la prison de Newgate à Londres le 15 novembre 1892. Qu'est-ce qui va l'associer à l'éventreur? Au moment où il a sa cagoule sur la tête, on lui a mis un sac sur la tête, la corde autour du cou, et à la prison de Newgate, c'est le plancher qui s'ouvre, on l'amène, puis il y a comme une trappe dans le plancher, on l'amène sur le dessus de la trappe, on lui met la corde au cou, et la légende raconte qu'au moment où le bourreau ouvre la trappe, il aurait dit « Je suis Jack ».
Jack, c'est incroyable,
et,
ça.
Et avant qu'il ait le temps de terminer sa phrase, il s'est retrouvé pendu au bout de la corde. Et évidemment, on est en ce moment-là, on est en 1892, on est 4 ans après les crimes de l'éventreur. La description que faisait Thomas, les prostituées qui ont côtoyé Thomas Neil Cream, hein, elle disait « Ah, c'est un homme avec une houppelande, un chapeau de forme, c'est un médecin ». C'est l'image qui avait été véhiculée autour de l'éventreur. Même si on sait que l'éventreur n'était pas médecin, avait aucune connaissance médicale. Mais c'est pas grave, c'était l'image populaire. On voulait que Jack l'éventreur soit un peu ce docteur charogne. Et finalement, ce Thomas Neil Cream, il correspondait à ça. Et qui plus est, il y a cette fameuse phrase qu'il dit « Je suis Jack ». Et finalement, il n'y a pas le temps de terminer sa phrase. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des chances que Neil Cream aurait pu être Jack l'éventreur? Parce que bon, évidemment, la première opposition, c'est de dire, il a été libéré de la prison de Joliet en 1891. Les crimes de l'éventreur étaient 1888. Donc, Neil Cream était en prison au moment où l'éventreur commettait ses crimes. Certains auteurs ont proposé, on dit, mais à l'époque, quand tu soudoyais les gardiens, tu pouvais être libéré d'avance. Est-ce que Cream aurait pu soudoyer des gardiens en prison à l'époque où il était dans l'Illinois? Pour finalement être libéré d'avance, on aurait falsifié les livres, hein, qu'on disait les écrous, on aurait modifié les écrous, et éventuellement, Cream aurait gagné l'Angleterre, où il aurait pu commettre ses crimes sous Jack l'éventreur, avant éventuellement d'aller empoisonner des prostituées dans le quartier de Lambeth. Cette histoire-là ne tient pas la route. Pour plusieurs raisons, rien ne permet de croire que Cream a été libéré avant l'été 1891. Il n'y a absolument aucun élément là-dedans. Mais aujourd'hui également, On connaît la psychologie des assassins. Et dans le modus operandi nous montre que Neil Cream et Jack l'Éventreur étaient deux individus psychologiquement très différents.
Parce que pourquoi commencer à empoisonner les gens alors que tu réussissais très bien ou sans les dépeçants?
Voilà. Et on comprend que le feeling n'est pas le même.
Non.
Hein? Neil Cream, lui, il n'avait pas besoin de la proximité de sa victime. Hein? Lui, rien que le fait qu'il l'empoisonnait, il vivait dans un fantasme. Hein? Il s'imaginait cette victime souffrant le martyr après avoir pris la pilule de strychnine. Donc, c'était un crime par procuration imaginaire. Hein? Sa jouissance, il la trouvait dans son imaginaire. Il imaginait les souffrances de sa victime et il lisait les comptes rendus dans la presse le lendemain matin. Jack l'Éventreur, lui, est un boucher. Il est ce qu'on appelle un picker. Il a besoin d'être aux côtés de sa victime. Il la poignarde. Il a besoin de voir dans ses yeux la vie qui s'échappe de elle. Alors, c'est ce contact-là avec sa victime qui lui apporte ce feeling qu'il a besoin. Dans les deux cas, on est vraiment ici à l'opposé des psychologies complètement opposées. Jack l'Éventreur n'était certainement pas Neil Cream et Neil Cream n'était pas Jack l'Éventreur.
Avec une exception en plus d'avoir tué une victime masculine, ce qui change un peu le narratif aussi du tueur en série typique, là.
Ouais, et dans le cas de l'Éventreur aussi, on voit la rapidité des crimes. Hein. Ouais. Il commence le 31 août et déjà au mois de novembre, après sa victime canonique, il semble disparaître pour ne jamais être finalement attrapé parce qu'on ne sait pas qui il était. Ses crimes s'arrêtent à ce moment-là.
Avec la gradation aussi de la violence. Christian, encore une fois, fascinant. Tu nous as fait découvrir un personnage qui a un petit peu de Québec en lui, en plus.
Oui, absolument.
Radio X-Files.
Radio X.
Le Space Cast avec GF Rich Blay.
Jean-François. Yeah!
Et Camille.
Je me demande bien pourquoi.
Le Space Cast. Du lundi au jeudi, 19h.
Radio X.
Présenté par Sensation Plus. Magasinez au sensationplus.com et découvrez tous nos produits érotiques pour couples. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com.
Ce midi, prenez la pause Bâton Rouge. Plus qu'un restaurant, c'est une valeur sûre, un service agréable et une ambiance chaleureuse. Le réconfort dont vous avez besoin. En plus, c'est vraiment bon. La pause Bâton Rouge, un dîner qui vous fera décrocher.
Avec les grandes chaleurs des prochains jours, Club Piscine voudrait souhaiter une très bonne baignade à tous les propriétaires de piscine. Ah, vous avez pas de piscine? Ben, pourquoi pas transformer la canicule en canicool avec une piscine hors terre tout équipée à partir de seulement 2 999 $. Nouvelle date d'installation maintenant disponible pour baignade rapide. Et pour pas se faire suer à nettoyer une nouvelle piscine, on vous offre en cadeau un aspirateur automatique d'une valeur de 150 $. La vente canicool, c'est 5 jours seulement chez Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis.
Une nouvelle énergie rayonne sur la région avec Polestar Ville de Québec. Un nouvel espace Polestar pour tout découvrir sur votre prochaine voiture électrique au design purement signé, à la performance mondialement acclamée. Comme nous, vous voyez déjà loin devant? Polestar Ville de Québec est votre nouvelle destination 100% électrique. Nous sommes déjà prêts à vous accueillir. L'équipe Polestar Ville de Québec vous dit à très bientôt.
Changez vos assurances auto et habitation pour Bel Air Direct et vous pourriez économiser jusqu'à 500 $ avec une soumission en ligne. Vous, là, vous feriez quoi avec 500 $? Certaines conditions s'appliquent.
Les viandes PPAL, c'est bien plus qu'une boucherie. C'est une équipe de passionnés qui vous conseille et vous offre viande, volaille, poissons et fruits de mer de la meilleure qualité au meilleur prix depuis 50 ans. Les viandes PPAL, une histoire de succès. Viandalé.com.
Méga arrivage de cèdres de l'Ouest et de cèdres du Québec chez Limaco. Particuliers ou entreprises, profitez de notre vaste inventaire de cèdres à prix compétitif pour réaliser vos travaux extérieurs. Limaco, les spécialistes en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
Pour vos pièces automobiles, votre destination c'est Nordique. Les réparations urgentes du printemps sont faites. Passons à l'entretien général. Chez Nordique, nous avons de tout pour votre voiture. Filtre, huile, essuie-glace, frein, suspension, bougie, etc. Nommez-le, on l'a. Et toujours au meilleur prix. Depuis 45 ans, magasiner chez Nordique, c'est plus qu'économiser. C'est profiter du meilleur service et des meilleurs conseils. Nordique, sur la première avenue, au 9111 Henri Bourassa et en ligne au Nordique avec un S.com.
Ce que j'aime avec les produits Origine Québec à la SAQ, ils respectent ma règle de trois préférée. Fait ici,
par des artisans d'ici, avec des ingrédients d'ici.
Et jusqu'au 24 juin, pour chaque tranche d'achat de 30 $ de produits Origine Québec, on reçoit 3000 points Inspire.
Fait que je vais pouvoir profiter de la fête nationale, déguster des produits uniques à nous,
tout ça en économisant. On me l'a toujours dit que la règle de 3 serait bien pratique.
SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails dans SAQ.com.
Cet été, comment éviter d'entendre...
Marc, j'ai chaud. J'endors plus la nuit.
Appelle Hi-Tech Climatisation. Ils vont t'installer une thermopompe Mitsubishi ou Fujitsu. Visite le hi-techconfort.com pour connaître toutes les promos et subventions en cours.
Problème de bébite? 781-9798.
Exterminateur Québec, une solution permanente pour régler vos ennuis avec les rongeurs et les insectes. Exterminateur Québec, une équipe avec plus de 10 ans d'expérience.
Quand il y a de la bébite, 781-9798.
Soumission gratuite.
Imper Solutions Construction, c'est le leader en calfeutrage de portes et fenêtres à Québec et sur la rive sud. Nos standards de qualité esthétique dépasseront vos attentes. Pour vos immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels, c'est impersolutions.ca. 418-952-9640.
À la Souche Microbrasserie, c'est tout un univers qu'on vous fait connaître. Avec deux succursales offrant des expériences différentes, explorez un monde de saveurs brassicoles inédites, inspirées par la nature et dégustez des plats savoureux. À Stoneham, découvrez un décor enchanteur encerclé de montagnes après une journée en plein air. Détendez-vous sur notre terrasse ou dans notre bière garden. À Limoilou, retrouvez une terrasse conviviale, urbaine et festive, entourée de végétation, parfaite pour profiter des soirées d'été. À Stoneham ou à Limoilou, la Souche Microbrasserie, c'est un incontournable pour vivre votre été.
Santé!
Militer pour un réseau d'éducation publique et accessible de la petite enfance à l'université, c'est fort. Militer pour l'accès à un régime de santé publique universel et gratuit, c'est fort. Se battre pour l'amélioration des conditions de travail dans nos réseaux, c'est très fort.
Se mobiliser pour une transition juste et écologique dans nos milieux de travail, c'est fort. Contribuer à la prévention en santé et sécurité au travail, c'est fort. Protéger les travailleuses et les travailleurs depuis plus d'un siècle, c'est très fort. La CSN, le maillon fort depuis 1921.
Choix 98. À Québec, c'est Radio X.
Radio X.
Choix. Faites-vous votre propre.